Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et voilà, toute chose a une fin. L'année 2019 arrive près de sa fin. Et voilà, c'est la dernière de Lecture par tous pour 2019. Mais rassurez-vous, nous comptons bien être là en 2020 et continuer à vous parler littérature. Alors, pour terminer cette saison, si je puis dire, ou en tout cas cette année, nous parlerons poésie. Poésie et même Occitanie. Notre collègue François Chabot est en effet allé rencontrer un poète occitan qui écrit en occitan, mais aussi qui traduit en français et même en anglais, Jean-Frédéric Brun, qui est un poète qui vit à Montpellier, qui est né en 1956. Alors il n'est pas que poète, il est aussi médecin et chercheur. Ah oui, on peut faire de la poésie tout en faisant de la recherche médicale, oui, c'est tout à fait possible. Il pratique l'occitan, il pratique le français, il fait beaucoup de choses, notamment il est représentant du PEN, le PEN Club, c'est le groupement international d'écrivains, et il en est le représentant pour l'Occitanie. Donc vous voyez, c'est une figure importante de la poésie, de la littérature régionale, même si ce n'est pas forcément quelqu'un dont on parle très souvent. Donc voilà l'intérêt pour François Chabot de le rencontrer, de le faire parler. Donc il va nous parler de poésie, de langue occitane, de rapport de pouvoir à l'intérieur de la langue. Et puis cet entretien avec François sera maillé, si je puis dire, de quelques lectures poétiques. Allez, François Chabot et Jean-Frédéric Brun.
C'est vrai que l'expérience poétique, c'est un peu le noyau dur, c'est le cœur de mon travail d'écriture, parce que j'écris aussi de la prose, mais c'est vraiment le travail pour condenser la puissance de la puissance des mots, la puissance de la syntaxe. Et bon, j'écris tous les jours de la poésie, ces trois recueils sont déjà longs, mais j'espère pouvoir en écrire d'autres, parce que j'ai écrit beaucoup de textes en poésie qui permettent de découvrir les possibilités de la langue quand on la pousse le plus loin possible.
Alors, tu cherches à donner à la langue occitane le moyen de ses ambitions, c'est-à-dire d'être lu sur l'ensemble de la planète, par approche singulière, parce que tu favorises la publication des recueils en trois langues.
Oui, ça me paraît très important, parce que c'est vrai que si on publie un texte uniquement en occitan, on est malheureusement très marginalisé, parce qu'il y a un lectorat fidèle, mais pas numériquement très important. Et si on publie en bilingue occitan et français, on se met de facto en position d'infériorité par rapport au français, qui est la langue dominante. Et ma grosse crainte, c'est que les gens ne jugent le texte que par la traduction française. Et c'est un piège, puisque si la traduction française est belle et meilleure que le texte occitan, on va juger cette traduction. Et au contraire, s'il y a un beau texte occitan et une traduction française qui n'est pas terrible, on va dire que ces textes ne sont pas extraordinaires. C'est ce qu'a vécu Frédéric Mistral, puisqu'il a fait des textes extraordinaires. C'est un créateur de langue, finalement, à son époque. Il a réussi, à partir de toute sa culture et de la langue parlée qu'il avait héritée de son enfance, à faire une magnifique langue littéraire dont nous sommes les héritiers et dont nous prolongeons l'expérience. Mais ces traductions françaises sont des traductions pédagogiques pour accéder au texte, et si les gens ne lisent que la traduction française, ils vont trouver les textes sans grande valeur littéraire, ce qui est complètement... ce qui est une erreur complète, et on le voit maintenant avec de nouvelles traductions de Mistral qui sont mises en place. Donc c'est un piège de face-à-face français-occitan pour une langue de culture qui est minorisée dans son territoire. Et c'est pour ça qu'il m'a paru intéressant de faire des textes trilingues, avec le texte occitan qui est le texte original, une traduction en français que je peux faire puisque étant occitan de France, je suis de culture française. Et puis, j'ai travaillé à avoir des traductions de qualité par des anglophones qui ont fait quelque chose de tout à fait différent. La relation entre l'occitan et le français, entre l'occitan et l'anglais, étant complètement neutre. Et alors, comme tu le sais, je ne veux pas me limiter à ça, et on avait travaillé à une traduction en espagnol d'un de mes recueils qui est resté inédit pour le moment, pour ne pas montrer que je veux chaque fois favoriser l'anglais, parce que c'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'ouverture sur le monde entier, avec des langues largement répandues, tout en disant que la langue occitane, bien que moins répandue, a autant de dignité que d'autres langues. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'aventure de l'écriture occitane, c'est que c'est une écriture qui va se nourrir de deux sources séparées, au moins. C'est d'un côté toute une culture, puisque c'est une langue qui a 1000 ans de littérature, et plutôt une littérature des sens savantes. Les troubadours, l'antilittérature baroque du XVIe et XVIIe siècle, et puis la renaissance littéraire ambitieuse à partir du XIXe siècle, qui voulait redonner ses lettres de noblesse à cette culture, et qui a parfaitement réussi, puisque Mistral a eu le prix Nobel. Donc, on a une langue qui a une possibilité qui a une possibilité très grande de jouer sur les deux registres, la langue sauvage parlée par les paysans et dont on a pu hériter au cours du XXe siècle, avec une syntaxe qui se pliait un petit peu à l'imagination, qui n'était pas corsetée, et puis toutes ces références culturelles. Donc les écrivains ont joué sur un équilibre entre ces deux influences, et c'est extrêmement excitant, et c'est un peu ça qui est ma démarche quand j'écris de la poésie.
Oui, parce qu'en fait, il y a cette part d'oralité qui reste aussi, et que l'on peut retrouver dans l'écrit, et en amenant toutefois de façon exponentielle la variété des sens et de finesse d'expression, qui sont basés sur une langue qui est riche en effet 1000 ans de littérature. C'est toujours un plaisir avec ces recueils de trouver à la fois retourner à une source et à arriver à avoir des affluents. Encore la mer est loin, et on sait qu'il y a encore beaucoup de trajets pour enchanter un peu toutes nos vies. Rocher comme un vouloir, vêtu d'oubli notre espérance minérale, au centre d'un replat de glauque fourvoiement. La vie au sommet de l'attente est un songe aveuglant, dentelle d'oubli, blafard et de soif.
Peyre, comme un boulet saïlat d'oublit, nos espères minérales au miège d'un plan d'esmaramen verdaou. La vide, aussi belle de l'espère, est un sommet bleuge de dentelun d'oublidant sur la vainque et l'essai.
Nous faisons l'ascension des chemins aveuglants dans ces jardins où s'efface toute vie dans la caresse de l'attente. La poétesse disait en langage d'argile, ma chanson est la fin dévorante et le clapotis des croyances éblouit. Elle décrit la danse du silence et fait frémir les tympans. Elle est à l'image de la braise. Je ne capturerai jamais dans mes mots la lumière que je pourchasse sans trêve dans ma nuit échafaudant ma triste vie en songe d'eau obscure. Car l'existence est un long rêve et nous le traversons sans y rien comprendre, enivrés par le tourbillonnement du réel. Quand le printemps n'est plus qu'un cri, me viennent par bribes des langages d'écorce et la lumière et certitude oublient. Miroir de soif. Le rocher est abysse de sécheresse, Le ver y déploie sa récolte assoupie et luxuriante. Lorsque la vie s'immobilise dans la lumière, il ne subsiste que la colère dans les trains de l'été.
Est-ce que là, ben, nous draillons bleutjes, azors ou l'habit à ses beaux, et la châtigne de l'espère. La troubaïris disait un langage d'argile, mais qu'en sous, est-ce la gagnement et l'ouremau d'ascreir et ses bleutjes, retraille la danse d'au silence, est-ce rementis l'ous ausi douce comme à l'image d'une brase. Jamais la gantaraille d'immondir et la luce, que cerque à plaque des jours et la sournude, bastiguen ma vidasse un sommi d'aigue escure. La vide est un long sommi, qu'à traversant sans y comprenne res, et mouillinat par la reboulinade d'Auberaille. Pour la bide, est-ce pas qu'un crit, mais bien un père brisal des langages des rusques, et la luce est certaise, oublite, miral des sept. L'ouroucan est une abysse de séquilles, l'ouvert y allargue sa maïsson à consumide et drudéjante. Quand l'oubire s'écaille dans la luce, demeura pas que lire dans la brassade de l'estio. C'est vrai que la situation de la littérature occitane est un peu particulière. On a eu donc une langue qui était très minorisée, mais qui était parlée par la majorité de la population. Et tout a basculé avec, au contraire, une langue qui est utilisée par des acteurs culturels, qui l'utilisent au maximum, qui font dire le plus de choses possible, alors qu'elle n'est plus utilisée couramment par les gens. Et donc nous avions petit à petit conquis un espace avec l'enseignement, les possibilités d'éditer nos livres et autres, et tout est remis en question par les récents changements, la réforme de l'enseignement, la réforme de la régionalisation, et donc la situation devient tout à fait critique pour cette langue, qui est une des langues les plus menacées du monde, finalement. Et c'est très intéressant parce que quand on fréquente des gens à l'étranger, ils savent qu'il y a une culture occitane importante. En France, c'est un peu ignoré. Mais ils connaissent les troubadours, ils connaissent Mistral, ils ne savent pas toujours que ça a continué jusqu'au XXIe siècle. Mais forcément, c'est une des grandes langues de culture de la planète, ce qui est totalement méconnu en France. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation où vraiment nous sommes en train de tomber dans le trou noir, dans l'indifférence générale. Et pourtant, il y a encore des gens qui s'intéressent à cette langue, qui veulent l'écrire, des jeunes qui se disent « c'est notre trésor, on veut le reconquérir ». Alors on ne sait pas très bien jusqu'où tout ça va nous amener, mais ça intéresse finalement les observateurs extérieurs qui se disent « vous êtes l'illustration de la difficulté qu'il y a à tuer une langue à partir du moment où elle a généré une culture ».
Exactement. À partir du moment où une culture lutte avec sa syntaxe et ses mots, elle est préservée et en dynamique.
Oui, alors peut-être qu'avec le 21e siècle, on a des choses différentes qui vont se passer. On va avoir des robots qui vont pouvoir parler occitan.
Dans le dieu noir, ton livre de science-fiction, d'anticipation, enfin c'est pas vraiment d'anticipation, c'est plutôt de science-fiction, il y a la langue occitane qui est préservée dans l'univers.
Oui. Et alors, c'est une aventure intéressante, parce que c'est un livre que j'ai écrit dans les années 70, quand j'avais 20 ans, qui est sorti un peu plus tard, qui était un peu passé inaperçu, mais finalement, il a trouvé un lectorat, parce que c'était un des rares livres de science-fiction en occitan. C'était pas tout à fait le seul, il y a d'autres auteurs, comme Christian Rapin ou Florian Vernet, qui ont écrit de la science-fiction. Et tout récemment, il y a un site sur Internet créé par des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui s'appelle Diou Negre, qui fait référence à mon livre. Alors c'est très amusant parce qu'ils m'ont contacté, me disant « Est-ce que vous ne voulez pas écrire encore de la science-fiction ?» Et je leur ai dit « Mais dans les années 70 où j'avais écrit le retrait de Diou Negre, j'avais aussi commencé d'autres romans. » Et du coup j'en ai repris un, et j'en suis au chapitre 40 ou 45, il ne devrait pas tarder à se terminer, mais je ne suis pas pressé de le finir parce que je suis très bien dedans. Je me régale avec mes personnages. C'est un peu triste après de se séparer d'eux en terminant le livre. Et donc, je me suis remis à la science-fiction en occitan. C'est une langue qui s'y prête très bien, bien entendu, puisque c'est une langue qui peut dire les choses les plus sophistiquées. C'est amusant parce que Pierre Serre, qui était un homme extraordinaire par ailleurs, disait, mais les langues régionales, ce qui les tue, c'est de ne pas pouvoir dire la modernité. Alors, pour l'exemple que je connais bien, qui est l'occitan, c'est une absurdité. J'ai beau admirer Pierre Serre, là, il a dit une grosse bêtise. C'est évident qu'on peut parler de futur, de choses très abstraites, de physique, de chimie, de n'importe quoi, avec une langue néo-latine, qui est l'aînée des langues latines, en fait, et qui est un outil extrêmement puissant, qui n'a rien à envier à toutes les autres langues.
Elle allait se grisant de fleurs et de clairs désarrois sur la magelle des fleurs flétrie à la recherche d'un venin en lequel l'être saisi d'angoisse qui se consume au soleil de sa brûlure oubliera que le ciel est clair et le miroir des absences. Ainsi s'attisait-elle au feu d'un trouble meurtrier, buvant un poison de colère sur le chemin de l'amertume. Mais tout en cheminant dans la rancœur, cette colère se perdait là même où se délace, en lumière d'ombre, le vêtement éthéré de l'âme en déroute dans le cœur que blondit le clair jaillissement de l'avenir.
S'embriagant des flous et des destorbicandes caminables, sous la brode d'Astios Marfis, à la recherche d'un verin, un télescure estrancinat, c'est grasillable au sous-aile de sa combourg, oubliant que l'Ousselinde est l'Umiral d'Azoublis. Et c'est un esclave, un tau, d'un luscle, d'un desvari sanguinus, peguant la puissance d'aquelle ire sur le camis de l'amarour, et l'ire s'esperdier où se desligue un courage azumbro le clarinet vesti de l'âme en desbarute, d'une scorce, qu'en saurisse le gisclé des clartates de l'indivinidour.
Tu nais au sortilège de la rosée, parmi le verdement immobile d'un rêve, alors que le soleil s'y vient évanouir. Devant la source, dame affolante du songe, façonne en toi le nom. Les plaies bruissantes, en grand geyser de primordiales sève, et esquive la règle sanguinaire.
Naïsses à sortilège de la higuette, d'une verdulence d'une rive estadis, quand le soudel si bien esbeure. Rase de la fond d'un bleuge d'un somme, gaubege en tue le nom, l'espace à bleuge, un grand gisclat des premiers irincassables, et des fourbes la sanguineuse oreille.
Cité où le vent crie château, où se répand la déraison de liaise, griffe du vertige, vieux langage d'arbres et de rochers, qui entraîne la pensée tout entière au cœur de son béissement.
Ciutas d'obèg et cride, castel, unte s'espandis la déraison de l'éuse, arpa d'aubertuium biel paraulis, d'aubraille et des peyrances, qu'un rabat à tout l'aimé est son embalousie. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on se heurte à un mur. Ça me paraît absurde, maintenant que je représente beaucoup la culture occitane au niveau international, au niveau du PEN international, qui est l'Association des écrivains du monde, où là, notre langue est tout bonnement considérée comme une des langues du monde, et pas la moindre, puisqu'elle a apporté des choses absolument fondamentales à la culture universelle, avec les œuvres du Troubadour, les œuvres de Mistral, et puis d'autres auteurs du XXe siècle, qui sont peut-être un peu moins connus. Donc, d'un côté, on a cette situation, et puis, on se retrouve en France avec le Karcher à l'œuvre, qui veut vraiment supprimer notre culture comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est vrai qu'on peut se promener dans les rues de Montpellier ou de Toulouse ou de Marseille sans savoir qu'il y a une langue de civilisation dans ces régions qui est très importante et qui est créatrice avec encore une littérature vivante. Alors, où cette aventure étrange va-t-elle nous mener? C'est une aventure tout à fait singulière, puisque la langue occitane n'est pas la langue d'une nation constituée avec un État qui veut la défendre. Donc, en même temps, c'est une contre-culture. Pour le moment, notre littérature a une telle masse critique qu'elle va rentrer dans cette logique. Donc, elle va faire partie des langues qui sont... Qui fonctionne à un niveau électronique au XXIe siècle, avec des robots qui pourront parler en occitan et autres, mais est-ce que ça donnera une vie à la langue dans la société? Nous n'en savons rien, mais l'avantage de l'histoire, c'est qu'elle fait toujours mentir les prophètes, qu'il se passe toujours des choses inattendues, donc pour nous, je crois qu'il faut qu'on continue sans trop se poser de questions. Notre aventure culturelle, elle est passionnante, elle est très singulière. Et bon, on n'est pas obligé de se dire on va tout perdre, on est perdu, suicidons-nous, taisons-nous. J'étais il y a 2 mois à Manille pour le congrès mondial du PEN, donc c'est l'association des écrivains du monde, et au milieu de toutes les cultures d'Asie du Sud-Est, il y en a des centaines, je devais parler de l'occitan. Alors c'était très intéressant, j'étais au milieu des Philippins, des Indonésiens, qui parlaient des différentes langues de leur endroit, moi j'ai parlé de l'occitan, alors je leur expliquais cette langue millénaire avec cette culture. Et puis je leur disais, j'avais sur une diapositive, c'était un PowerPoint, je montrais un trou noir. Je disais, ça y est, nous sommes en train de plonger dans le trou noir, y a-t-il une vie derrière? Devons-nous nous taire et nous arrêter? Toute la salle a crié non.
Je retrouve les précipices ruisselants parmi lesquels la vie est un songe limpide qui perle à la lisière de l'oubli. L'angle décrit en cercle de clarté, la noire attente des versants privés de soleil sur une somptuosité de falaises et de frondaisons. Les mots d'écorce épaisse et de moelle incertaine étirent la colle translucide du néant, selon la loi supérieure, impérieuse, des contraires qui dansent et puis s'affrontent en infinie terreur.
Rétrobe usemba usestaigatige. Un tel abide est une somme clarinelle qui perlege à las raras de l'oubli. L'aigle descriu en seucles carinels l'espère négrouse d'azubas, sur une fan des rancarèdes et des rames, l'ousmousse des rusques espèces et d'incertes mesouilles estirera sous la pègue clarinelle dont nous reste en règle majorau das contra risque d'ansu et sacaru en infinite esglai.
Songe d'un chemin dans l'herbe rageuse sauvage, avec trop de lumière, trop de silence, et la folie tournoyante des insectes, la sorcellerie tortueuse des frondaisons. Là-bas, les cimes escarpées, sans soleil dans l'existence où elles rehaussent leur orgueil. Nous sommes revenus dans cette neige interminable, qui transmue le désarroi des vertiges du temps en oubli triste et sage.
Sommi d'un camille d'une herbe rabiose, sauverte, et met trop de luz, trop de silence, et le bourgeon piradise des insectes, la mascarie bistorte de l'aubraille. L'ail, les grands cerfs et ses et ses soleils où il existit, où tenaux sous une rugiole, c'est un tournage d'une année inaccabable qui cambia le désreil des bertouilles d'autain, et l'oubli de sa vie est triste.
Tu es médecin, président du PEN Occitanie, président des amitiés Max Roquette, dont un cahier devrait sortir en décembre, non?
Oui, alors ça c'est aussi une autre aventure, c'est que Max Roquette c'était un homme que j'ai bien connu, qui a été un peu de mes maîtres spirituels, et qui a eu la démarche, à partir de son enfance, se dire non, moi, il faut que j'utilise cette langue. Et cette langue, c'était l'occitan, qu'il avait découvert en descendant dans la rue et en se faisant des copains dans le village. Dans sa maison, on parlait en français. Et donc, c'est la langue de la liberté de l'enfance dans laquelle il a voulu puiser pour recréer tout un univers. Alors, c'était une expérience très intéressante. Et donc, en fait, grâce à son fils Jean-Guillain Rouquette, chaque année, on sort un fascicule d'une excellente tenue avec un certain nombre de collaborateurs qui, autour de la personnalité de Max Rouquette, interroge la culture du XXIe siècle, avec bien sûr un focus particulier sur tout ce qui a pu se faire et se fait en Occitanie. Donc effectivement, le prochain numéro des Amistas Max Rouquette, qui devrait être le numéro 10 ou le numéro 11, ne va pas tarder à sortir.
Bien, ben, je sais qu'on peut trouver ce cahier en librairie.
Oui, comme on dit toujours, dans toutes les bonnes librairies, à Montpellier, nous avons en particulier la librairie Sorams.
Oui, il y a toujours un rayon occitan qui est bien.
Oui, bien. Il a un peu diminué, depuis quelques années, mais il y est quand même.
Il est conséquent quand même, et puis à jour. La rosée du petit matin étire les ors très clairs, et ses doigts de paix limpides font chavirer l'oubli.
Regace de la prima uba estiba los ors clarinel et sus des de pasmonde et de scandelu l'oubli.
C'était donc un entretien et des lectures avec Jean-Frédéric Brun, poète occitan. Donc vous l'avez entendu dire ses propres textes en occitan, et puis interviewé par François Chabot, qui lui nous a fait la version française. C'était la dernière de Lecture Partout pour 2019. Elle a été réalisée par la personne qui vous parle, entre autres, et par Bruno Bertrand. Et nous comptons bien vous retrouver pour de nouvelles lectures. Et en attendant, profitez bien de cette période de fête pour vous faire offrir des livres, pour en offrir et pour en lire. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.